Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Excellentes conditions d'écoute des programmes de Radio Okapi qui vous propose le magazine Bana Okapi. Avec les jeunes et plus jeunes, nous réfléchissons aujourd'hui sur le choix de la carrière professionnelle à l'ère du numérique. En effet, beaucoup de jeunes Congolais rêvent de devenir médecins, juristes, professeurs ou politiciens. Le pays n'ayant pas assez d'entreprises pour les embaucher, la plupart se retrouvent longtemps au chômage. Alors que le numérique a engendré un paysage professionnel en plein mutation avec l'émergence de nouvelles carrières passionnantes et prometteuses. Les avancées technologiques rapides ont créé des opportunités uniques pour les jeunes de se positionner dans des domaines en constante expansion et d'explorer des chemins professionnels novateurs. Comment opérer un choix judicieux de sa carrière professionnelle à l'ère du numérique? Élément de réponse dans cette émission présentée par Sarah Soumbela, mise en onde de Dieudonné Nyangasa. Ce magazine est coproduit par Plamé Dimbiavanga, Grace Nvezolo, Rachel Kesembango, Ezekiel Muzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Etienne Lissumbo, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF est réalisé par Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijanou.
Okapi, encore plus d'infos.
Merci de rester à l'écoute de votre radio préférée qui vous propose le magazine Bana Okapi. La transformation digitale a ouvert de vastes horizons d'opportunités professionnelles pour les jeunes. Les jeunes peuvent se positionner dans des postes tels que spécialiste du marketing digital, consultant en transformation numérique, expert en cybersécurité, développeur d'applications mobiles, spécialiste de l'expérience utilisateur, analyste de données et bien d'autres encore. Ces rôles émergents sont à la pointe de l'innovation technologique et offrent de belles perspectives de carrière. C'est dans ce cadre que la structure All Event, en collaboration avec l'Église du Christ au Congo, a organisé du 6 au 7 septembre dernier, à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant, une foire de l'éducation et de carrière fait du cas. L'activité était placée sous le thème « Éducation et les choix de carrière à l'ère du numérique, problématiques et accompagnement ». Étienne Lissumbu était présent.
La première édition de la Foire de l'éducation et des carrières a connu la participation de plusieurs acteurs de différents domaines, notamment les banques, les télécoms et les entrepreneurs. Ces derniers ont, au-delà d'exposer leur savoir-faire, orienté les élèves à opérer un choix professionnel sur base de leurs compétences naturelles et présenté quelques métiers de l'ère numérique. L'éducation étant un élément fondamental dans le développement d'une nation, ces élèves ont été appelés à choisir des carrières en fonction des compétences recherchées sur le marché de l'emploi. En vue de participer à l'émergence de la RDC. Dans son monde des circonstances, Laetitia Mboyo, organisatrice de cette foire, a expliqué que l'objectif de cet événement est de fournir aux élèves et étudiants les outils et conseils pour permettre de construire et raffiner leurs projets. Le représentant du président national de l'ECC à cette foire, le révérend Bienvenu Kamana, a expliqué la place qu'occupe l'éducation dans le développement d'un pays. Cet événement, véritable carrefour d'opportunités, réunit des acteurs clés du domaine de l'éducation, de professionnels de diverses carrières et bien sûr la jeunesse congolaise à qui cet espace est principalement dédié. Nous croyons fermement que l'éducation est non seulement un levier pour le développement personnel, mais aussi un outil incontournable pour la transformation de notre société à travers les valeurs chrétiennes, a-t-il indiqué.
Okapi. Plus de 200 élèves de différentes écoles à Kinshasa, notamment les lycées Monseigneur Chaoumba, les instituts Monseigneur Bokele Yale et Bukama, ainsi que les étudiants de diverses universités, ont été sensibilisés sur comment opérer un choix judicieux pour leur carrière professionnelle à l'occasion de cette foire. Quelques élèves présents à cette foire donnent leurs impressions au micro de Étienne Lissumbu.
L'éducation et les carrières. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'était une bonne chose pour moi de venir ici pour trouver quelques orientations, surtout sur ce que je ferai après l'université, parce que là, je compte faire la médecine et je suis venue ici pour avoir plus de d'orientation sur ma carrière et tout. Et déjà qu'on parlait de prise en charge, on parle de prise en charge et donc c'était une bonne chose, de personnes qui pourront nous aider à faire des démarches peut-être pour les universités à l'étranger et tout. Donc, ce qu'il faut dire aux autres, n'est pas négliger l'éducation et surtout, faut bien choisir la carrière et surtout en fonction de la tendance. Comme maintenant, je vois que c'est plus l'informatique et l'anglais qui prédominent, qui dominent, et le marketing qui sont vraiment là et tout sur le marché.
Déjà, ben j'ai aimé les thèmes vu que ça parlait du choix du métier et des carrières et tout. Personnellement, moi j'ai toujours eu à avoir un rêve de faire la médecine, donc je peux dire que j'ai déjà mon plan de vie concernant ma carrière du futur, mais le fait de découvrir aussi d'autres activités, d'autres métiers, c'est aussi intéressant. Certes, on peut avoir un truc à faire, mais après, on peut aussi avoir comme des formations. Parce que là, j'ai vu aussi, il y avait des stands pour la cuisine, des stands pour l'informatique, pour l'anglais. Ce sont des choses, on peut peut-être pas se baser à faire nos études comme ça. On peut devenir médecin, mais après, partir à un moment donné, faire la médecine, l'anglais. Ce sont juste des formations qui nous rajoutent encore plus de connaissances. Et moi, je dirais aux autres de ne pas négliger ce genre d'activité, parce qu'on peut dire que c'est un peu basique. On sait très bien ce qu'on va faire, mais si on vient ici, on peut découvrir certaines choses qui nous poussera aussi à vouloir s'investir dans ça et de ne pas seulement se dire que c'est qu'on a là, c'est réellement ça. Plus on grandit, on augmente de niveau, on a envie d'échanger certaines choses. Alors voilà.
C'était déjà une très bonne journée. J'ai trouvé plein de organisations, des ONG et ça, genre, ils sont là pour nous guider. À faire un choix, pour nous guider, pour savoir ce qu'on doit faire dans le futur. Ils sont là pour nous encadrer. Malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais m'intéresser ici, parce que moi, je vais devenir docteur. J'ai pensé peut-être que j'allais trouver la médecine, peut-être que j'avais parlé de la science, des trucs comme ça. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Mais il y avait quand même, il parlait de la science, de l'informatique, de l'anglais. Il y a des centres de formation pour des bourses d'études. Il y en avait, mais vraiment, moi, je me suis pas vraiment retrouvée à 100%. Mais il y avait quand même des trucs qui m'intéressaient, comme l'informatique, l'anglais. Ça va quand même. Bon, pour aux amis qui s'est retrouvé dans cette activité, qui s'est retrouvé, par exemple, il y a d'autres élèves qui aiment faire l'architecture et puis elle s'est retrouvée ici même. Bon, c'est bien, il faut suivre ce genre de trucs. Et puis je félicite aussi les membres de ces organisations qui organisent ces trucs, parce que ça nous aide vraiment à avoir des objectifs dans la vie et de choisir, de savoir ce qu'on veut faire au futur.
Premièrement, ce qui m'a attiré, que quand la dame était venue dans la classe, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est ce que tu peux faire après tes études, ce que tu peux faire à l'université ou après l'université, ce que tu peux faire comme pour entretenir, créer quelque chose qui sortira de toi-même. Voilà, je n'ai pas encore imaginé ce que je peux faire. Oui, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté du courage. Apprendre à me défendre aussi. Vraiment, s'aider aussi à ne plus, à ne pas avoir peur du genre, apprendre à créer quelque chose du genre. C'est ce que je peux dire seulement aux autres, c'est d'être courageuse, de ne pas avoir peur des autres, de surmonter les obstacles. Hein. Et de toujours faire ce que ton cœur te demande de faire. De faire ce que tu as envie de faire. Si tu as besoin de réaliser cette chose-là, mets-le en pratique, mets la volonté, mets la détermination et tu vas réussir.
Moi, quand on m'a dit, j'étais en classe, j'avais aucune idée au fait. On m'a dit qu'on parlait, c'était d'abord l'éducation. La dame, quand elle est venue au fait, elle a parlé de carrière, ce qu'on devait faire après les études. La carrière d'une personne après ses études, pas seulement les études. Quel est le métier que tu vas faire après? Moi, ça m'a intéressé parce qu'il y a ces choses-là que je voudrais faire. Alors, je me suis dit, tant mieux l'opportunité là, que j'aille d'abord voir ce qu'ils font nous dire là-bas au fait. C'est ça. Au fait, j'ai trouvé plusieurs choses parce qu'on nous a même proposé des universités à fréquenter après les humanités, après avoir eu son bac, les universités. On nous a aussi présenté des modèles, quoi. Il y a des gens qui étaient ici, il y a des papas, il y a des grandes dames qui sont présentées ici. Ils nous ont dit que eux, ils étaient comme nous. Ils sont devenus des grandes personnes parce qu'ils ont cru en eux, au fait. Ils ont su, ils ont pu saisir les opportunités et ils sont succès. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a inspiré, voilà.
Connaissez-vous la Mpox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de Mpox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la Mpox s'est faite à travers des lésions, voire plaies, des liquides organiques comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de Mpox et le rapport sexuel avec une personne malade de Mpox. Pour nous protéger contre la Mpox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de Mpox et éviter tout contact avec les objets souillés par de malades de Mpox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151. Adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire. Okapi.
Okapi. Les entreprises cherchent à s'adapter et à innover dans l'ère numérique, ce qui offre de nouveaux rôles et des perspectives de carrière stimulantes pour les jeunes. Cependant, il est primordial pour les jeunes de développer les compétences nécessaires pour se démarquer dans ce contexte numérique. C'est dans ce cadre que certaines entreprises comme la First Bank s'emploient à former les élèves et étudiants à travers des stages professionnels qui sont régulièrement organisés dans cette institution. Luigi Mugheni, responsable du secteur éducationnel à la First Bank d'IRCSA, présent à cette activité, a échangé avec notre reporter Étienne Lissoumbou.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Que les chefs des services éducationnels chez First Bank aujourd'hui on s'est rencontrés ici à voir de l'éducation et des carrières. Dans la prochaine réalisation,
Ok, tous tels que nous sommes là, nous sommes passés par le banc de l'école, nous sommes passés par l'université, d'où il y a une forte implication du secteur éducationnel dans ce que nous sommes aujourd'hui. De ce fait, la banque vient déjà travailler en amont avec les élèves, avec les étudiants et surtout avec les institutions qui œuvrent, dans l'éducation pour permettre à ce que qu'elle puisse donner des services de qualité aux étudiants, et la banque est là pour accompagner toutes les démarches, toutes les initiatives qu'ont les écoles et les universités pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
Alors quel est l'apport de la banque dans l'éducation et la formation des carrières des jeunes?
Déjà, nous recevons beaucoup de stagiaires chez nous. Tant de l'école secondaire que de sur le plan universitaire qui viennent chez nous. Nous avons aussi nous avons des partenariats avec plusieurs universités que nous finançons pour l'amélioration de la capacité d'accueil, pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et pour plusieurs autres choses. Parce que la First Bank est, je pense, l'une des rares banques, à avoir dédié tout un segment commercial au secteur éducationnel. D'où nous sommes vraiment lancés et nous voulons vraiment apporter notre pierre à l'édifice pour ce qui concerne le secteur éducationnel. Nous avons eu à subventionner plusieurs bibliothèques dans les universités. Nous avons eu à accompagner plusieurs écoles dans les différents projets, plusieurs universités dans les différents projets, et nous sommes encore disponibles pour faire encore plus pour le secteur éducationnel. Merci beaucoup.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans la seconde partie de Bana Okapi, votre magazine dédié aux jeunes et plus jeunes qui aborde des sujets liés à la santé, la protection des droits de l'enfant, l'environnement, l'entrepreneuriat et l'éducation. Comment opérer un choix judicieux de sa carrière professionnelle à l'ère du numérique? C'est la problématique au cœur de nos échanges. La transformation digitale a bouleversé le paysage professionnel, ouvrant de nouvelles perspectives et opportunités pour les jeunes. Cette révolution technologique a transformé la façon dont les entreprises opèrent, interagissent avec leurs clients et gèrent leurs processus internes. En conséquence, de nouveaux besoins ont émergé, créant ainsi un terrain fertile pour les jeunes en quête d'opportunités professionnelles. Restez à l'écoute de votre magazine préféré pour avoir plus d'informations à ces sujets. Oh, oh, oh. Cette deuxième partie s'ouvre avec le témoignage d'un jeune entrepreneur qui a su s'adapter à l'heure du numérique pour pouvoir se qualifier dans son travail. Il travaille pour une banque de la place et a sa propre entreprise de services, Captech Power, qu'il gère grâce aux avancées technologiques. Il s'entretient avec Stanislas Diomi.
Monsieur Doudou Kabuka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur CEO du cabinet Captech Power, un cabinet spécialisé en planification énergétique, mais vous travaillez également dans une banque de la place. Nous sommes à l'heure du numérique et beaucoup de jeunes sont attirés par des métiers numériques. Cela a été aussi votre cas?
Bien sûr que nous avons été attirés par le numérique.
Comment vous êtes entré de vous imprégner dans le domaine numérique? Y a-t-il de quoi que ou jusque-là ça va encore?
Jusque-là, ça marche très bien, ça marche très bien. Dans notre domaine, nous sommes dans le domaine énergétique. Le numérique, nos entreprises partenaires, a mis à entamer la transition énergétique.
Avez-vous fait votre choix de carrière en passant aux exigences des entreprises ou juste par passion?
Je suis passionné de la technologie. J'œuvre aujourd'hui dans le monde de la technologie. Pour répondre à votre question, je dirais que je fais le choix par passion.
Ok, et dans ce cas, comme c'est une passion, comment le numérique vous aide dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes?
Le numérique nous est vraiment très important aujourd'hui dans les contextes où la consommation doit être réduite et les énergies renouvelables pleinement exploitées. Les avantages de la transformation numérique pour la production, les stockages, les transports, la consommation d'énergie sont en fait cruciaux. Des technologies numériques avancées pour accompagner nos partenaires, nos entreprises partenaires à optimiser la consommation d'énergie et soutenir une économie à faible émission de gaz. Et pour répondre à votre question, la transformation numérique, la transformation numérique est vraiment au centre de notre action, quoi.
Je voulais savoir comment vous vous y prenez en mélangeant vos deux emplois. De l'autre côté, vous travaillez dans une banque de la place et en même temps, vous êtes dans un cabinet spécialisé.
Je cumule les deux emplois. En tout cas, j'ai lu le contrat qui me lie à la banque. J'ai lu la convention collective. J'ai vu que les deux emplois, vu que je respecte à 100% mon contrat avec la banque, et que en restant CEO du cabinet que nous avons eu à fonder pour accompagner les entreprises à optimiser l'énergie, pour ne pas mettre en berne nos talents, j'ai vu que en créant ce cabinet-là, je ne mettrai pas mon travail à la banque en berne. Surtout, il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dessus.
Et comme vous le savez, les entreprises aujourd'hui, conscientes des avantages compétitifs qu'offre la transformation digitale, on adopte des technologies avancées pour optimiser leurs opérations. Comment faites-vous pour rester compétitif malgré les avancées continues de l'ère numérique?
Ok, j'étais en train de dire, comme je l'ai dit au départ, que œuvrant dans un domaine purement énergétique, et nous sommes obligés de suivre l'évolution technologique en exploitant au maximum nos données, en restant pour rester compétitif et ne pas disparaître. Nous avons adopté une politique en mettant en place des solutions digitales pour aider nos partenaires, ceux qui nous ont fait confiance à gérer d'une manière automatique et à moindre coût leurs énergies. En bref, nous avons adopté de bonnes solutions pour assurer notre succès futur, quoi.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions?
C'est les difficultés de tout entrepreneur errant en Afrique, bon, pour dire en Afrique. Et ce sont des difficultés liées au climat des affaires.
Oui, des difficultés liées au climat des affaires.
Le climat des affaires n'était pas très bien assaini. Plein de soucis de pièces de rechange, de logiciels, et qu'il faut venir d'ailleurs. Et au-delà de difficultés liées au climat des affaires,
oui,
il y a aussi des difficultés des logiciels de formation pour nos agents et nos partenaires. Donc on est tout le temps obligé de recourir ailleurs et cela prend un peu plus de temps que prévu, quoi.
Et pour les jeunes qui veulent emboîter votre pas, si vous avez un conseil à leur donner, ça sera lequel?
Le conseil que moi je donnerais, déjà le choix de carrière, c'est vraiment très difficile. Et c'est vrai que l'environnement influe sur le choix, la famille et plein de choses, et les gens qui ont vécu avant nous. Mais moi, je leur demanderais de suivre leur passion, parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. Et aujourd'hui, il faut vraiment être à la page, suivre l'évolution technologique, parce que si vous mettez en retard aujourd'hui, ça sera difficile de vous rattraper.
Alors, Monsieur Doudou Kabuka Mungi, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est à moi de vous remercier.
Notre premier invité est le préfet de l'Institut, Monseigneur Bokele Ali. Le programme actuel de l'éducation nationale est-il adapté avec l'ère numérique? Sachez que le préfet de l'Institut, Monseigneur Bokele Ali, est joint par Stanislas Diomi.
Monsieur Deli Boufaka, bonjour.
Bonjour, mon frère Stani.
Il y a plus de 200 élèves et étudiants sensibilisés sur comment opérer un choix à l'ère du numérique. Alors, en tant que préfet, en quoi cette activité est-elle bénéfique pour les élèves?
Bon, merci beaucoup pour la question. L'activité est bénéfique, a été bénéfique pour les élèves parce que l'enfant doit apprendre. Et cette activité était liée tout juste à cet apprentissage-là, que l'enfant apprenne quelque chose. Donc, elle est bénéfique parce que tout, c'est d'abord l'apprentissage. Et l'enfant doit apprendre. Lorsqu'il apprend quelque chose, il peut mettre ça en pratique. Donc, le bénéfice de ça, c'est ça.
Voilà, pour vous, c'est ça. Et quelle est la différence qu'il y a entre votre époque et celle liée au numérique actuel?
Bon, vous savez que à notre époque, c'était un peu difficile. Hein? Ça prenait beaucoup de temps pour vous exécuter un travail. Et notre temps aussi était limité. Mais aujourd'hui, il y a la facilité, la rapidité et les possibilités sont illimitées. Et puis aujourd'hui, une seule personne peut exécuter plusieurs tâches à la fois, ce qui n'était pas le cas avec notre époque.
Quelles sont les contraintes que vous avez connues dans votre époque?
Oui, les contraintes étaient là. D'abord, le matériel, qui n'était pas aussi abondant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le numérique, un peu partout, vous trouvez ça. Hein?
Oui.
On n'avait pas assez de matériel, et puis la formation aussi n'était pas très poussée, sauf quelques rares écoles qui formaient des gens pour ce type de travail.
Et vous affirmez qu'il est plus difficile pour les élèves de faire un bon choix de métier à l'ère du numérique?
Oui, je crois, parce que les enfants ne sont pas suffisamment informés. Hein. Il faudra un programme qui est adapté au numérique et puis donner beaucoup plus d'informations au numérique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants utilisent le numérique. Bon, que les parents, on peut acheter à quelqu'un, à son enfant, un appareil, patati, patata. Mais l'enfant n'est pas suffisamment informé sur le numérique. Il se débrouille tout seul. Je prends un exemple terre à terre.
Oui, allez-y.
Les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils manient facilement les ordinateurs. Pendant que moi, par exemple, je peux être limité quelque part, et puis je pose la question à l'enfant. L'enfant me dit, non, papa, entre ici, fais ceci, ainsi de suite. Alors, si l'enfant est suffisamment informé, il peut encore faire mieux.
Et dans ce cas, monsieur le préfet d'Eli Boufaka, quels sont les critères à prendre en compte pour effectuer un choix de carrière?
Bon, les critères sont nombreux, entre autres la vocation, les aptitudes, la disponibilité du matériel, l'ambition de la personne intéressée et même l'influence du milieu. Tout ça, ce sont des critères qui influencent la vocation de l'individu pour opérer ses choix.
Parce que l'activité était beaucoup plus liée à la sensibilisation des élèves qui devraient opérer un choix de leur carrière. Et d'après vous, est-ce qu'à cet âge, ils sont capables de faire un bon choix de leur carrière?
Je crois que oui, si la formation est adéquate. Ce que vous avez organisé, c'est une très bonne chose pour que les enfants soient imprégnés de ce qui les attend demain. Donc, si il y a une bonne formation, je crois que les enfants peuvent arriver à cela.
Pensez-vous que le programme actuel de l'éducation nationale est adapté avec l'ère du numérique?
Je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison que la grille horaire n'a pas encore connu un changement au niveau de la direction nationale des programmes scolaires. Parce que nous visons quelque chose. Mais maintenant, est-ce que la direction nationale des programmes a revisité la grille horaire pour voir combien de nombre d'heures on peut ajouter tel niveau? Je crois que ce n'est pas encore vraiment adapté. Il faudra que les autorités de l'éducation puissent s'y pencher. Et lorsqu'on s'y penche, il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que c'est des grilles horaires. Dès que la grille horaire change, le nombre d'enseignants aussi change. C'est-à-dire, si vous avez par exemple deux enseignants, eh bien, on doit ajouter un troisième enseignant. Donc, c'est ça, je crois que la grille horaire doit connaître un changement au niveau de la direction nationale et former aussi de professionnels pour l'encadrement des élèves.
En tant que chef d'établissement, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler au gouvernement?
Les recommandations, d'abord, c'est ce que je venais de dire en dernière minute ici, la grille horaire. On doit modifier la grille horaire des programmes scolaires. Nous avons une direction des programmes scolaires. Alors, cette direction-là doit bien étudier une nouvelle grille horaire, l'adapter aux réalités actuelles. Je crois que c'est ça, et puis former aussi beaucoup de jeunes gens. Parce que, vous voyez, maintenant, ce sont des instituts supérieurs et quelques universités qui essaient de créer des options de ceci pour avoir beaucoup d'étudiants. Mais il faudra que l'État ait une politique, comme autrefois, une politique pour dire que nous voulons qu'au bout, par exemple, des 5 ans, nous ayons autant d'étudiants, de finalistes pour tel domaine, autant ainsi de suite. Et sur base de ça, je crois que ça peut aller.
Connaissant aussi les élèves, est-ce que vous avez aussi des recommandations à leur formuler, surtout pour ceux qui ont des problèmes de choix de carrière à cette heure de numérique?
Oui, les recommandations, c'est qu'ils doivent d'abord, comme je l'avais dit, avoir des aptitudes eux-mêmes et des ambitions, mais ne pas suivre l'influence des autres, ne pas aussi être influencé par les parents. Mais que chacun soit responsable de ce qu'il attend pour demain.
Monsieur le préfet d'Eli Boufaka, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite toutes les bonnes choses.
Notre magazine Bana Okapi se poursuit. Encore un invité pour aborder ce sujet sur comment opérer un choix judicieux de sa carrière professionnelle à l'ère du numérique. Le coach en entrepreneuriat Donel Ndekila propose quelques recettes pour y parvenir et évoque également des opportunités qu'offre l'ère du numérique. Stanislas Diomi l'a joint au téléphone.
Monsieur Donel Ndekila, bonjour.
Bonjour, monsieur Stalix.
Vous êtes président des entrepreneurs de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, Banu Okapi traite un sujet sur le choix de la carrière à cette ère numérique. Comment opérer un choix judicieux de sa carrière professionnelle à l'ère du numérique?
Alors, aujourd'hui, nous avions la grâce d'avoir ces numériques-là parce que ça apporte plus d'ample à plusieurs personnes qui ne savaient pas au départ quoi faire. Les numériques aujourd'hui nous facilitent. Aujourd'hui, avant de choisir son... avant de choisir son domaine ou le domaine dans lequel vous voulez œuvrer, il faudrait bien analyser et savoir un peu c'est quoi votre vision du monde. Qu'est-ce que vous voulez devenir demain et comment vous voyez le monde selon votre entendement demain? Cette question préalable, ça vous permet à ce que vous puissiez vous évaluer et de savoir en quoi est-ce que vous allez vous lancer pour que vous arrivez à atteindre des objectifs fixés.
Et quelles sont les opportunités que le numérique nous amène?
Aujourd'hui, le numérique nous amène plusieurs opportunités. Il y a les télétravail, il y a ceux qui peuvent travailler à distance grâce au numérique. Il y a ceux qui aujourd'hui peuvent s'empocher beaucoup plus d'argent tout en faisant uniquement les designs, en restant à la maison. Il a un peu d'argent avec ce qu'il est en train de faire. Il y a ceux qui aujourd'hui qui gèrent des logiciels, il y a ceux qui créent beaucoup plus de situations innovantes ou des produits innovants grâce au numérique. Alors le numérique aujourd'hui, je dirais que avec par exemple l'intelligence artificielle qui fait partie du numérique, permet à ce que le gens ne puisse plus travailler assez avec assez d'efforts physiques, mais plutôt avec les efforts intellectuels, d'où les machines peuvent travailler à la place de l'homme. Donc voilà un peu les opportunités qu'on peut y avoir.
Et partant de votre expérience, quelles sont vos motivations à vous tourner vers les métiers du numérique?
Moi, je dirais que par rapport à mon expérience, je pense que le numérique aujourd'hui nous permet à ce que nous puissions réaliser assez des résultats de façon rapide. Si j'ai un travail à faire aujourd'hui, un travail que je pouvais faire de 50 pages, aujourd'hui je peux le faire en une journée à la place d'aller réfléchir pendant 40 jours en train d'écrire ABC. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qu'on peut inventer, on peut toujours modifier et améliorer ce qu'on trouve déjà. Donc le numérique nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine fiabilité d'information, de conserver. Si je prends l'exemple de l'archivage électronique, avant dans nos bureaux nous avions que du papier, mais aujourd'hui avec le numérique nous avions de contenu électronique qui, même si l'ordinateur se faisait brûler, je peux récupérer les données à travers les logiciels. Donc il y a pas mal d'avantages aujourd'hui avec le numérique. Moi dans mon secteur agricole, hier, je pouvais utiliser des décamètres pour faire les mesurages. Aujourd'hui, je peux les faire avec des drones. Donc, le numérique me permet d'évaluer ou même d'évaluer l'étendue de 100, de 200 hectares à quelques minutes à travers les drones et les GPS. Donc, voilà un peu ces avantages que nous pouvons avoir.
Et que faire pour que le jeune de la RDC soit compétitif au métier du numérique, sachant que dans notre système éducatif, il n'y a pas assez d'évolution? Et qu'est-ce que notre pays peut faire à ces niveaux?
Le pays doit nous aider à changer les programmes d'enseignement. Le pays doit avoir aujourd'hui des experts en la matière, dans chaque matière. Il faudrait que les gens soient des spécialistes. Nous devons quitter ces côtés généralistes. Non, je fais l'économie, j'ai la philosophie, etc. Aujourd'hui, on doit initier à l'entrepreneuriat. Le pays doit former des gens qui vont révolutionner le monde. Vous savez pourquoi, monsieur Stanis? Parce que si vous ne vous adaptez pas selon l'évolution du monde, vous disparaissez. Alors pour ne pas disparaître, nous devons nous adapter. Ça, c'est très important.
Quelles solutions vous préconisez pour les jeunes qui ont déjà des métiers tels que ceux qui sont juristes, médecins ou professeurs, mais ont du mal à trouver un emploi? Doivent-ils reprendre leurs études pour se former dans les métiers du numérique?
Même dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont comme compétences, ils peuvent toujours travailler avec les numériques. Vous êtes juriste, ok, mais il y a les conseils que vous pouvez faire aujourd'hui en ligne. Vous pouvez aujourd'hui faire des propositions de loi en ligne. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour vous. Aujourd'hui, les médecins, même ceux qui sont dans la santé publique, nous avions en RDC, je vais vous dire, il y a beaucoup d'idées. Dans quel sens? Vous avez des hôpitaux aujourd'hui qui n'ont pas d'incinérateur. Alors, ceux qui sont dans la santé publique ne peuvent pas nous créer ces incinérateurs-là pour essayer d'éviter cette pollution toxique de déchets, des soins à risque infectieux. Donc, il y a quand même de quoi faire. Même dans la médecine, on peut toujours être entrepreneur. Même étant juriste, on peut entreprendre, on peut être lobbyiste, on peut écrire des discours pour les gens. Et voilà ce que je peux dire.
Coach, parlons maintenant de réformes au sein du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter aux jeunes congolais qu'ils soient plus formés dans des métiers du numérique en termes de réformes?
En termes de réformes, je pense que les états généraux du ministère de l'EPST précédemment a découlé avec des rapports du genre qu'il fallait qu'il puisse y avoir quand même quelques amendements dans le programme national de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'on s'adapte. Il faudrait que l'outil informatique soit manipulé dès le bas âge. Il faudra qu'on nous enlève des appareils dactylographiques que les gens faisaient. Il faut aujourd'hui, avec à l'âge de 10 ans, les enfants peuvent utiliser l'ordinateur pour qu'ils soient demain des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois, ceux qui vont lutter contre le chômage. Parce que vous savez, quand c'est l'Église, notre système aujourd'hui est obsolète. Mmh. Ce système n'est fait que de créer des demandeurs d'emploi. Et où sont les emplois en question? Il faut qu'on crée de créateurs d'emplois. On va nous éviter les exodes ruraux et autres. Donc le ministère de l'Éducation nationale sait au moins qu'il y a des réformes à faire. Et dans cette assemblée générale qui vient de passer, ils ont quand même découlé pas mal de décisions dans ces sens. Et nous étions contents de l'entendre. Nous attendons tout simplement l'exécution sur terrain.
En tant que formateur coach, comment pousser le jeune à s'intéresser à des métiers numériques?
Alors, comment les pousser? C'est les influencer en réussissant déjà dans ce que nous sommes en train de faire, qu'on soit des modèles, qu'on soit des exemples, qu'on soit aussi ressemblés, qu'on ne cache pas des informations, que ces jeunes-là soient incités en venant dans des conférences, dans des ateliers, pour qu'ils arrivent à des cours. S'ils restent à la maison, ils ne vont pas avoir l'information. Et nous aussi, en tant que leaders, nous devons aller vers ces jeunes-là qui ont besoin de ces informations, question de les influencer pour qu'ils soient utiles demain pour la nation.
Avez-vous un conseil à donner pour les jeunes qui veulent s'adonner au numérique, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas par rapport à la distance, à l'environnement, peut-être au train de vie?
Alors, je vais déjà demander aux jeunes comme moi, les 1 giga que vous avez l'habitude de mettre dans vos téléphones pour être sur WhatsApp et Facebook, devenez amis à Google et YouTube. Vous pouvez apprendre par des tutoriels. Vous pouvez approcher des structures comme les nôtres pour découvrir des formations gratuites qui se font aujourd'hui et vous pouvez en bénéficier. Donc, devenez ami à Google pour des recherches et ami à YouTube pour des tutoriels, ça pourra vous aider.
Monsieur Donel Ndekila, je rappelle que vous êtes président des entrepreneurs de la ville-province de Kinshasa. Je vous dis merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier.
Merci au coach Donel Ndekila.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Les organisateurs de cette foire de l'éducation et des carrières, FEDUCA, déplorent le manque de dynamisme du système éducatif congolais qui est resté le même depuis l'époque de la colonisation du pays par la Belgique. Des observateurs pensent que ce système ne permet pas aux jeunes d'être compétitifs ou de s'adapter aux métiers de l'ère numérique. Écoutons à ces sujets l'initiateur de la foire de l'éducation et des carrières, FEDUCA, Monsieur Iyoka Yannick.
Bonjour madame.
Vous êtes initiateur de la foire d'éducation et des carrières qui a eu lieu récemment. Quel est l'intérêt de cet événement?
L'intérêt de cet événement réside dans le fait qu'il faut à un moment promouvoir et soutenir le secteur de l'éducation. Et il est important d'accompagner la jeunesse congolaise dans leur choix de carrière et dans leur formation. Et puis, il faut aussi influencer les développements de la RC au travers des leviers qui sont très pertinents, à savoir la jeunesse et l'éducation.
D'où vous est venue cette idée?
Voilà, ok. Cette idée m'est venue par mon expérience personnelle. J'ai fait une partie de mes études ici en RDC et après j'étais obligé d'aller hors du pays. Et c'est là que j'ai compris que la RDC n'offrait que... En fait, on connaît déjà les options qui s'offrent à nous quand nous faisons nos études supérieures. Et c'est là que je découvre qu'en fait, il y a une diversité d'options que nous ne connaissons pas en RDC et qui nous perd par rapport à comment est-ce que le monde évolue. Donc, ça, c'est l'une des raisons. Et puis, il y a aussi les types d'événements qui sont organisés en RDC. Parce que généralement, en RDC, nous avons des types d'événements business, des divertissements, mais il n'y a pas d'événement central qui accorde un intérêt à l'éducation comme dans plusieurs pays du monde où on trouve l'existence de ces types d'événements qui est axé vers l'éducation. Et notamment, il y a aussi les réalités de la jeunesse. Hein. Vous voyez en RDC, quand un étudiant obtient son diplôme, déjà, durant son cursus secondaire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fera après. c'est après l'obtention de son diplôme qu'il se pose la question, qu'est-ce que je fais après? Donc il n'a pas été préparé à qu'est-ce qui viendra après son cursus secondaire. Et c'est un vrai problème, et voilà, et ça désoriente, et la jeunesse est perdue.
Quelles sont les carrières qui s'offrent aux jeunes dans cette ère du numérique?
Voilà, déjà, en parlant de l'ère du numérique, on fait allusion à l'évolution. Le monde évolue, il y a des transformations. Aujourd'hui, il y a la présence de l'intelligence artificielle. Les choses vont plus vite. Il y a vraiment une grande transformation dans le numérique et qui, dans le monde, je veux dire, et qui influence tout l'écosystème du monde professionnel. Donc, les carrières à l'ère du numérique sont diverses, elles sont nombreuses, elles peuvent toucher tous les secteurs et c'est vraiment une grande diversité. Et c'est difficile de dire en ce jour que voilà, c'est ça le métier de l'ère du numérique. Ça veut dire que voilà, il y a des métiers que nous connaissons qui existent, et il y a des métiers qui sont nés avec la transformation numérique. Aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait pas dire on parlait pas de marketing digital. Donc le marketing a évolué avec la transformation numérique. Aujourd'hui, on parle du marketing digital. Et ça croît dans le temps. Et il est important que la jeunesse connaisse ces évolutions dans le monde professionnel et savoir voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux, quels sont les métiers qui vont disparaître, parce qu'il faut savoir que avec l'évolution, avec la robotique, il y a des métiers qui n'existent plus, qui vont disparaître avec le temps. Et la jeunesse doit être préparée pour qu'ils soient à mesure de voir quelles sont les évolutions dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quels sont les métiers qui vont exister, qui seront transformés. Mais il y a une diversité de métiers qui vont exister, qui naissent, et c'est à la jeunesse de les connaître et puis de les exploiter.
Vous pensez que les jeunes Congolais ne sont pas encore au courant de ces métiers qui naissent avec l'ère numérique?
Pas beaucoup, en tout cas pas beaucoup, par expérience, ils n'en connaissent pas. Il y a un vrai problème de formation, il y a un vrai problème d'information au sein de la jeunesse. La jeunesse n'a pas accès à ces informations. Ça, ce sont des faits que nous connaissons. Il y a un vrai problème de communication. Et c'est une responsabilité, même au niveau étatique, d'apporter ces informations aux jeunes. Eux ne le savent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas cette information. Ils n'ont pas accès à ces genres d'informations. Donc c'est un fait, on le voit aujourd'hui, quand vous allez dans des universités, dans des institutions supérieures, vous posez la question, vous comprendrez que même le choix des carrières est limité. Ce sont les mêmes choix qu'on avait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sont les mêmes carrières qu'on présente aux jeunes. Voilà, c'est un peu ça.
Mais comment pousser les jeunes à choisir les métiers à l'ère du numérique?
Voilà, pour pousser les jeunes à choisir, il faut d'abord leur apporter l'information. Soyez-en sûrs, la jeunesse congolaise est très réceptive, mais il faut leur apporter l'information, ou soit leur pousser vers l'information. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner les initiatives qui donnent aux jeunes l'opportunité de découvrir, de se remettre en question sur leurs choix, sur leurs ambitions, sur leurs attentes. Donc ça veut dire qu'il faut créer des plateformes où ces jeunes ont accès à cette information et connaissent quels sont les process, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les cheminements qu'ils doivent prendre pour être prêts après l'obtention de leur diplôme.
Que reprochez-vous au système éducatif congolais? Vous avez tantôt parlé du système éducatif qui n'aide pas les jeunes à s'approprier ces terres numériques.
Notre système éducatif, c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Des mises à jour au niveau des formateurs, des mises à jour de programmes, ce sont de vieux programmes, ce sont les mêmes méthodes. Bon, oui, aujourd'hui on parle du système LMD, c'est bien beau, mais même nos enseignants ne sont pas à jour. Vous voyez? Et c'est un vrai problème. Juste une petite histoire. J'ai commencé mon parcours scolaire ici en RDC, je crois qu'en G1, j'avais une affaire de 20 ans encore, si je n'abuse. Ok? Et quand je suis allé continuer mon parcours universitaire à l'étranger, on me pose une question. Parce que je suis allé étudier dans un pays anglophone, on devait traduire, évaluer mon diplôme dans le système anglophone. Et puis, on me pose une question. On me dit, monsieur, vous avez eu 21 cours en G1. Est-ce que vous pensez que vous avez tout ça dans votre tête? La dame était stupéfaite. C'est pas normal que vous ayez 21 cours en une année. Vous voyez, donc c'est un système qui doit être changé, retravaillé, repensé. Le corps, les étudiants, les professeurs doivent être remis en niveau et vraiment tout doit être retravaillé depuis la base. C'est un vrai travail de fond où tous les décideurs, toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation doivent s'asseoir, décider et mettre des actions en place pour transformer, résoudre cette problématique.
Avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui vous écoutent aujourd'hui sur Radio Capi?
Voilà, le message est simple. Nous savons qu'à ces jours, la jeunesse est très digitale. Ça, c'est déjà très bien. C'est un bon point. Mais la jeunesse doit s'intéresser aux activités qui ont une influence sur leur vie professionnelle. Ils doivent être curieux. La curiosité scientifique est très importante. Et ils doivent être alertés à tout moment quand il y a des événements qui a trait avec l'éducation, qui a trait avec le monde professionnel. Donc, j'invite la jeunesse à être sensible à tout ce qui est formation, à tout ce qui est programme, à tout ce qui est foire de l'éducation, d'y s'y présenter, parce que la clé de leur avenir s'y trouve. J'invite aussi les gouvernements, les décideurs et les entreprises de soutenir ce type d'événement. Parce qu'il a été très difficile pour nous de réaliser cette première édition. Heureusement qu'il y a eu des entreprises qui nous ont ouvert leurs portes pour nous dire, voilà, on comprend le fond de l'activité, on vous soutient. Mais c'était très, très difficile et nous invitons nos autorités à soutenir, à ouvrir les portes à ces gens d'initiatives qui sont surtout portées par la jeunesse congolaise. Et cela aura des implications sur le développement de notre pays.
Merci beaucoup, Monsieur Yannick.
Je vous en prie, madame. C'est à moi de vous remercier.
C'est par cet entretien que nous mettons un point final à ce numéro du magazine Bana Okapi. Je suis Sarah Sumbela, Didoni Nyangasa a assuré la mise en onde de ce magazine. Gisèle Kaja a réalisé ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF. Cette émission a connu la participation de Plamidimbi Avanga, grâce au Vezolo Rachel Kessembangu, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diumi, sans oublier Étienne Lissumbu. Cette émission a été supervisée par Jean-Marc Matouaki Mofilili Dijano. Comment opérer un choix judicieux dès sa carrière professionnelle à l'ère du numérique? C'est la problématique qui était au cœur de votre magazine. Avec les jeunes et quelques experts, nous avons passé en revue quelques opportunités professionnelles qui accompagnent l'ère numérique au profit de jeunes pour des carrières émergentes. Pour saisir la balle au bond, les jeunes congolais sont appelés à s'adapter, à se former et à être compétitifs pour ces nouvelles carrières. Merci de continuer à nous faire confiance. On se retrouve demain à la même heure et à la même fréquence. Très bonne suite de programme à toutes et à tous.